et 18, donc 18-5. Ushmartem et chokotai, vet mishpatai, asher yase otam adam, vachai bahem. Et là aussi, ani Hashem. Vous garderez mes chokot et mes mishpatim. Sont des choses qui, si l'homme l'homme doit les faire, doit pratiquer ça, que chai bahem et vivre avec eux et par eux, ani Hashem. Ani Hashem. Alors Rashi dit, sur ce verset-là, le chai bahem, l'homme vivra par eux avec eux, le olam haba. Chai bahem, c'est-à-dire, c'est la vie éternelle. On parle de olam haba. Sheim tomar ba'olam hazeh, alors sofo met. Tu peux pas dire qu'il s'agit de vivre dans ce monde, puisque finalement on va mourir. La mort fait partie de la vie, comme on dit. Cette fameuse histoire, je sais plus qui a raconté que, oui, c'est que la vie c'était une maladie sexuellement transmissible et toujours mortelle. Alors, le Chai Bahem, donc je vous ai dit ça, et Ani Hashem, Neman Shalem Sachar, comme toujours, Hashem, quand le pasouk dit Ani Hashem, je Hashem, ça veut dire, on peut me faire confiance, je paierai un salaire. Donc, je donnerai un salaire pour ce qui a été fait. C'est-à-dire, il y a un salaire à pratiquer ce que je demande que vous pratiquiez. Okay. Donc maintenant, on va voir ce Meshé Chokma. Et donc, ça, Biurtach, l'explication, c'est la suivante. Ha'uma bichlala, le peuple juif, en tant que tel, Tachlita, son but, Sheitnagu alpidarchi Torah. C'est de se conduire conformément aux lois de la Torah. Et à ce moment-là, Hashem yé lokehem. Alors Hashem sera à ce moment-là leur Dieu. Ils vont expérimenter que Hashem est leur Dieu. Ki ein Hashem meyached et shemo à la pratique. Akadosh Baruch Hu n'accole pas son nom aux individus. Alors, on dirait, contre-exemple, Abraham, Yitzhak et Jacob. Oui, mais disons, Abraham, Yitzhak et Jacob, ce sont des individus qui représentent en leur temps le clan d'Israël, c'est eux. Donc, c'est tout à fait spécial. Qui a pratiqué l'individu, velot siruf klali, enotachliti klal. L'individu, il n'y a pas avec lui la notion, le clan Israël, il n'arrive pas au but. À lui tout seul, il ne peut pas y arriver. Il a besoin qu'il y ait un clan qui l'aide à y arriver. Vine auma bichlala nekel etzla liot nizar bechukim. Le peuple, dans sa totalité, il lui est relativement facile, lui dit facile, de faire attention aux chukim, c'est-à-dire de faire attention aux lois spécifiques juives. Alors il dit « Hema dvarim adatiyim », c'est les choses religieuses, c'est-à-dire les choses qui sont faites au titre de la religion, si vous parlez comme ça. C'est beaucoup plus facile que d'être nizar b'mishpatim. C'est beaucoup plus facile que de faire attention aux mishpatim. C'est-à-dire, ema animusim ve'amishtar. C'est-à-dire, chukot akvuim besechel ou ba'anaga anchona. Les mishpatim, ce sont des lois qui sont des lois de bon sens, si vous voulez. C'est des lois qui correspondent à une certaine discipline qui permettent de vivre en commun. C'est des lois qui sont logiques. Tout le monde comprend que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Et semble-t-il, ça, à l'échelle du clan en tout cas, le clan Israël a beaucoup de mal avec ça. Il a plus de mal avec ça qu'avec les lois religieuses en tant que telles. Et il apporte comme preuve le Kishlona shel Yerushalayim yochiach. Et l'échec d'Yerushalayim le montre. Où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on nous parle de cet échec? Il y a un pasouk au début du Sefer de Yeshaya, au début du livre donc du prophète Yeshaya, le pasouk Yudbet du premier chapitre, où Hachem dit, c'est un pasouk terrible, où Hachem dit, il s'adresse au clan d'Israël, donc c'est Yeshaya, le Navi qui parle au nom d'Hachem, et qui dit au Bnei Israël, « Mi bikesh zot miyetchem » Qui vous a demandé ça? Ramos Traseraï, de fouler mon sanctuaire, en quelque sorte. Il vous a demandé de venir au Bétamigdash. Je vous ai jamais demandé une chose pareille. D'accord? Pourquoi? Ve'ata, alors que maintenant vous êtes Meratzrim, vous êtes des assassins. Ve'kaspar, ayal esigim. En fait, votre argent, c'est pour la corruption, c'est du vol. Aré, bechokim, ayun izarim, ou mekaimim, kol mitzvot adatiot. Au temps du Navi, les chokim, les lois religieuses, ils les pratiquaient parfaitement bien. Vous avez déjà dit, probablement, que jusqu'à la fin, le fonctionnement du Beit Hamikdash, il était tout à fait en ordre. Les gens, on a apporté les corbanotes qu'il fallait, on faisait tout ce qu'il fallait faire au Beit Hamikdash. Seulement, en dehors du Beit HaMikdash, ils se conduisaient comme des crapules. C'est ce que Yeshayahu leur reproche au nom d'Hachem. Assassins et voleurs et corrupteurs, etc. Et corrompus. Incroyable. C'est très, très fort. Et donc là, le Mesher Chochma dit, c'est plus facile d'être religieux, en quelque sorte. Alors, la religion, ça touche personne. Je veux dire, ça demande pas beaucoup d'efforts. Ouais, tu fais attention à ne pas mettre de vêtements de chatenaise. Quand tu achètes un vêtement, tu le fais vérifier pour qu'il n'y ait pas de chatenaise. C'est pas vraiment difficile. Quand tu manges cachère, c'est pas une grande difficulté. Ça, c'est des choses religieuses. Mais par contre, le commerce, si vous voulez, on vient de voir avec ceux qui. On vient de voir la Gemara dans Kiddushin, où on trouve. La Gemara, elle rapporte deux histoires. L'histoire à Yerushalayim, où c'est insupportable d'écouter ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est prêt à faire quoi que ce soit pour l'autre. Et que si on. Et puis, on ne peut même pas leur faire confiance. Ils ne se font pas confiance. C'est la situation que la Gemara. C'est pas du tout. C'est une Gemara qui ne parle pas du Moussard. Elle n'est pas en train de faire. La morale, elle raconte une histoire et on s'aperçoit que, alors c'est quand on écoute ce qui est dit là, on est sidéré littéralement. Aré, bechokim ayu nizarim. En ce qui concerne les chokim, ils faisaient ce qu'il fallait. Bekaimim kol mitzvot adat yot. Les mitzvot religieuses, ils les faisaient, ils les pratiquaient. Rakbe mishpatim ayu sorim. Mais ils étaient complètement révoltés et ils faisaient n'importe quoi dans les mitzvot. Mishpatim, dans les choses logiques, dans le comportement de la dame la chavero normal, quoi, pas, on te demande pas quelque chose de spécial. Oulam yachid aprati lo levado nekel liot zahir be mishpatim. Un individu, lui, peut faire attention. Shemasigim mitzad asechel ou mitzad animus. Des choses que on comprend par là, c'est rationnel et c'est aussi c'est comme ça que c'est les bonnes mœurs, c'est quelque sorte, des bons comportements. C'est marqué, et lui il dit, c'est ça le pshat, la traduction par Hillel de ce qui est écrit dans la parasha de cette semaine aussi, « Kolma de sanilach le chavrach lota avid » que tout ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Je crois que c'est la traduction que Hillel a donnée du Ve'ahavtal re'acha kamocha. Aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Hillel, pour qu'on comprenne mieux, il l'a formulé négativement. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est relativement facile à faire. C'est assez logique. On comprend bien que, bon, faut vraiment être un peu vicieux pour ne pas respecter ça. Au point que la Gemara, au début de Maseret Kiddushin, la Gemara, elle dit la chose suivante. Elle dit la mitzvah de kibud ha'em, la mitzvah d'honorer son père et sa mère, c'est mitzvah kala, c'est mitzvah facile, légère. Et puis, c'est museget mitzvah la sechel ha'yashar. Parce que c'est une mitzvah qu'on peut très bien concevoir sans que un ordre religieux doive nous le prescrire. De toi-même, Amrou Alea, Shei Kipriyatrov. On a dit sur cette mitzvah de Kibud Av V'Em que c'était en fait comme de payer une dette. Donc, a priori, on a une dette à l'égard de nos parents dans la mesure où ils se sont occupés de nous. Donc, c'est pour ça que, du coup, il s'embarque ici dans, bon, ça vaut la peine quand même de le voir. La Gemara, elle dit dans Kiddushin, un autre endroit, vous savez, on discute sur mitzvot assez chasman grama. Il y a des mitzvot assez qui sont liés avec le temps et d'autres mitzvot assez qui sont intemporels. Les mitzvot qui sont liés avec le temps, par exemple, c'est toutes celles, c'est d'avoir l'obligation qu'on avait de manger de la matzah à Pessah. C'est une mitzvah qui est liée au temps, c'est-à-dire c'est la nuit du 14 au 15. La nuit du 15, donc, on a une mitzvah de manger de la matzah. C'est une mitzvah qui est liée au temps. Et donc, normalement, on apprend que les mitzvot qui sont liées au temps, les femmes en sont dispensées. Et là, c'est une exception, parce que ensuite, la Gemara a dit que l'interdit du Hametz avec et la mitzvah du matzah et de la matzah, elles vont ensemble. Donc, la femme, comme elle est astreinte à ne pas manger du hametz, elle est aussi astreinte à manger de la matzah. Mais sans quoi, elle n'aurait pas l'obligation. Par exemple, a priori, les femmes n'ont pas d'obligation de manger dans la soukha, parce que la soukha, c'est quelque chose qui ne s'impose que quelques jours par an. Donc, d'obligation de couer le loulav, d'écouter le chauffard, toutes ces mitzvot qui sont liées au temps. Alors, très souvent, les femmes ont pris sur elles de les pratiquer quand même, mais elles n'ont pas vraiment d'obligation. Donc, la Gemara qui parle de ces mitzvot-là, elle dit, d'où est-ce qu'on sait que les femmes sont astreintes aux mitzvot positives qui ne sont pas liées au temps? Puisqu'on sait déjà que celles qui sont liées au temps, elles ne sont pas astreintes, alors celles qui ne sont pas liées au temps, d'où est-ce qu'on sait qu'elles y sont astreintes? Alors on apprend de Moré, ça veut dire on apprend de la mitzvah de la crainte. On a une obligation de craindre ses parents, et il y a une mitzvah de donner du kavod et une mitzvah de les craindre, de yira. Là-bas on sait que les femmes sont chayav, sont obligées, et de là on déduit toutes les autres. Au Paris, la Gemara dit, mais pourquoi on n'apprendrait pas que les femmes sont dispensées, justement, de ces mitzvot-là, qui sont intemporelles? On pourrait l'apprendre du fait que les femmes ne sont pas astreintes à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, quand c'est une étude pour elle-même, n'est pas une étude fonctionnelle. Bien sûr, les femmes doivent apprendre la Torah pour savoir ce qu'il faut faire et quand on doit le faire et comment on doit le faire. Mais l'étudier la Torah, pour l'étudier, pour l'étude, elles n'ont pas cette obligation. Alors, puisque, on pourrait dire, pourquoi est-ce que on n'apprendrait pas plutôt que, voilà, puisqu'elles n'ont pas cette mitzvah, qui est une mitzvah très importante, la mitzvah d'étude de la Torah, c'est tellement fondamental, et malgré ce caractère fondamental, Néanmoins, on ne les a pas astreintes à cette mitzvah. Alors on pourrait dire que bon, du coup, ça veut dire que les mitzvot positives, les femmes en sont dispensées en général. Bon, alors, il explique en long et en large, c'est des questions un peu trop techniques, si vous voulez, pour que c'est pas le lieu maintenant de parler ça, de ça ici, mais on voit, c'est que il y a une mitzvah de faire des barrières sur les mitzvot, de protéger les mitzvot, de faire des barrières, d'ajouter des interdits, etc. Alors évidemment, ajouter des interdits, on peut pas le faire dans le domaine des questions d'argent. Parce que quand A s'oppose à B, on peut pas être marmir pour A, parce que si on est marmir pour A, c'est au détriment de B. Donc ça n'a pas le sens de faire des khumrot dans ce sens-là, quand c'est des conflits d'intérêts entre deux personnes. Par contre, dans les khukim, on peut faire des barrières. On peut mettre des barrières pour qu'on n'en vienne pas à transgresser ces khukim. Donc c'est pour ça que les khakamim ont mis des... Par exemple, ça a aussi un sens d'ajouter, par exemple... On a une mitzvah d'ajouter au Shabbat, c'est-à-dire on commence le Shabbat un peu plus tôt qu'on y serait obligé, et on le finit un peu plus tard qu'on est obligé. D'accord? Et ça, c'est une mitzvah midrabanan, ça s'appelle Tosefet Shabbat, un supplément de Shabbat. Ça a un sens, parce qu'on ne laisse personne, et ça, c'est une façon d'être sûr de ne pas transgresser le Shabbat. Maintenant, il y a aussi, dans d'autres domaines, justement, il y a cette idée à l'échelle de l'individu, on peut obliger quelqu'un à mettre des barrières, même sur des questions de mishpatim aussi. Comme par exemple, il y a un pasouk qui dit, un pasouk dans Michelet qui dit, le man teler bederer tovim. Je veux que tu te conduises comme les gens bien se conduisent. C'est plus que ce que tu es obligé de faire. La Gemara, elle rapporte la situation suivante. Justement, à ce sujet-là. Elle rapporte l'obligation que un homme a de se conduire, l'ifni mishurat adin. C'est-à-dire, de rester en deçà de son droit. De ne pas faire jouer le droit jusqu'au bout. Alors, la Gemara, elle rapporte un exemple. Elle dit, Rabba Bar Hanan, il avait des tonneaux de vin, il les a fait transporter, et les transporteurs, ils ont cassé les tonneaux. Et alors, lui, il a saisi leurs vêtements quasiment, c'est-à-dire pour s'assurer qu'ils allaient lui payer le dommage causé, saisi les vêtements. Ils sont allés chez Rav, c'était le maître à ce moment-là, et Rav a dit au propriétaire des tonneaux, à Baba Bar Hanan, il lui a dit, rends-leur leurs vêtements. Alors Rav a demandé, c'est le dîme comme ça? Je voulais dire... C'est pas vrai, le deal n'est pas comme ça. Le deal, ils sont responsables. Ils auraient dû faire attention. Ils m'ont causé un dommage. Je suis en droit d'essayer de me payer sur ce que je peux me payer. Donc, je saisis ce que je peux saisir. Amar Lohin, il a dit oui, c'est le deal. Pourquoi? C'est marqué, les mains de l'herbe derrière ton vim. Le deal est que tu dois te conduire bien. Tu dois te conduire comme se conduisent les gens bien. Qui eux ne vont pas faire prévaloir leurs droits dans tous les cas, ils vont tenir compte des gens qu'ils ont en face. Elle continue. Alors évidemment, il a obéi, il a rendu les vêtements. Mais les gens, ils ont dit, arabes, ils ont dit, Aniye Anan, nous on est les pauvres gens, on a travaillé toute la journée, et on n'a rien, parce qu'évidemment, ils ne nous payent pas pour le transport, puisqu'on a cassé les tonneaux. Alors Rav a convoqué Rav Machanan et lui a dit paye leur salaire. Il a dit c'est le deal comme ça. Les gens qui n'ont pas fait le boulot, il faut les payer quand même. Amaleim, c'est marqué Vochot Ifretsu Trila. Parce que Vetrukotai Tishmeru, pardon, il faut faire une barrière. L'alechem bahem, l'itayem bahem. Ani Hashem Elokechem. Il dit voilà, il faut faire ça parce que c'est les choses sur lesquelles on va transgresser le plus rapidement possible. Donc dans ces domaines de Mishpatim, comme le Yetzer Hara, il est très fort, et que on peut dire, mais bon, je comprends, que c'est de l'ordre de la logique. Alors, on peut dire, ben, bien sûr, si les gens ils n'ont pas fait le job jusqu'au bout, pas de raison de les payer, de la même raison, et si au contraire, ils m'ont causé un dommage, ben, je vais les faire payer. Il a dit non. Il y a un individu, on ne peut pas imposer ça aux gens. Mais Rabbi Baba Hanan, qui était probablement un Rav qui obéissait, il obéit à Rav, sans que Rav doive s'imposer à lui, il lui dit, est-ce que c'est le din? Je vois bien que c'est pas le din, mais tu m'imposes ça? Il dit oui. Alors il lui a quasiment demandé, mais sur quoi tu t'appuies pour me demander ça? Il dit, parce qu'il y a des versets qui disent que tu dois te comporter particulièrement bien pour faire très attention. Et c'est seulement après, dans le texte, qu'on voit que Ushmartem est trop kotaï. Vous garderez mes décrets. Les décrets, c'est ce qui est Negeda Sechel, comme il dit. Donc, en vérité, il faudrait en parler d'abord. Vet Mishpatai, Shebeshneem, Yassou, Siagim. Dans les deux, il faut faire des barrières. Asher Yassé, Otam, Adam, Vechaibahem. Il faut faire cela pour que on vive avec ça. C'est-à-dire qu'on acquiert Olam Haba. Olam Haba, ça s'acquiert pas simplement en faisant ce qu'on est obligé de faire dans ce monde-ci. Si tu en fais pas un peu plus, alors tu acquiers pas le monde à venir. C'est très important. C'est absolument fondamental. Mais au niveau du clan, on peut pas l'imposer. Le tahlit, ba'uma, be'olam hazeh, il doit faire ce que la Torah elle demande. Et pas plus, quoi. On peut pas faire des barrières. On peut pas essayer d'en faire un peu plus. Je te demande de faire ce qu'il faut faire. Uniquement à l'échelle du clan. Pour le clan, on ne peut pas donner plus. Mais les individus qui sont obligés d'en faire plus. C'est donc ce que dit, c'est assez philosophique, ce que dit ici le Meshech Chochma. D'accord ? Ça veut dire que les mitzvot qui sont logiques, on n'a presque pas de mérite à les faire. C'est-à-dire, pourquoi tu ne le ferais pas? Pas de raison de ne pas le faire. Alors sur... Attendez un instant. Je retrouve le papier. Bien. Alors il y a une autre chose qui est très connue. Dans cette paracha, je vous l'ai dit en passant, la Torah, elle dit ici, Ve'ahavta l'recha kamocha. D'accord, c'est, tout le monde connaît. Rabbi Akiva dit que c'est un klal gadol batorah. Alors, c'est le chapitre d'après, chapitre 19. Donc on est dans Kedoshim déjà, dans la deuxième paracha. Alors, en passant, regardez le verset Gimel, verset 3 de Parashat Kedoshim du chapitre 19, Yutet Gimel. Marqué Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Littéralement, tout homme, sa mère et son père, vous les craindrez. Ve'eshavtotai Tishmeru, Ani Hashem Elokechem. Rashi dit, donc la traduction c'est, donc chacun doit craindre son père, sa mère et son père, et il faut respecter le Shabbat. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. De nouveau le même verset. Alors Rashi, Ish imo ve'aviv tirau, kol echad mikem, chacun d'entre vous, c'est marqué Ish, n'importe qui, vous devez craindre père et mère. Ça, dit Rashi, c'est pshuto, c'est le sens obvié du verset. Et le Midrash dit, Eli ela Ish. C'est marqué Ish. Ish, c'est normalement un terme qui met l'accent sur quasiment la virilité de l'homme. On dit Ish milchama, un homme de guerre, etc. Alors, Isha minayin, d'où on sait que ça concerne aussi les femmes, que chez Homer, Tiraou, quand on dit Tiraou, avec Anshnaim, c'est un pluriel, Tiraou, vous les craindrez. Imken, Laman et Marish, d'accord? C'est vous. C'est un pluriel. si ça parlait que de Ish, c'est un seul individu, c'est marqué, on devrait marquer simplement que tu les craindras, mais pas vous les craindrez. Aish, sipek be, alors pour le, donc pourquoi c'est marqué Ish? C'est parce que on dit ici Ish, sipek be yado la sot. Aval Isha, rejouta herim alea. Un homme, a priori, il a les moyens de cela. Mais des fois, la femme, elle peut être soumise à d'autres obligations. Son père, son propre père, bon, c'est clair, mais peut-être à l'égard de son mari, ou ça, il y a d'autres situations. Et donc, elle peut peut-être pas, ce serait être une grande discussion. En tout cas, on le dit, on parle de Ish, et la femme aussi, a priori, sauf qu'elle, peut-être il y a des situations dans lesquelles elle pourrait être dispensée de cela, on le verra peut-être. Imo ve'aviv, tiraou. Alors, c'est ça que je voulais vous faire remarquer, que vous avez déjà remarqué tout seul, probablement. C'est marqué votre mère, enfin, son père, sa mère et son père. Ici, on a dit d'abord la mère et après le père. Alors que dans Aseret HaDibrot, on dit Kabet et Avicha et Imecha. Le père d'abord et la mère après. Pourquoi est-ce qu'il y a cette inversion par rapport à ce qu'il dit dans Aseret HaDibrot? Le fils, chez Galoui le Fanab, Adonai Baruch Hu, il sait bien qu'Aben irait et Aviv yoter mi'imo. Il sait très bien qu'un fils, il aura plus peur de son père que de sa mère. Et dans le Kavod, au contraire, il aura et par contre, le Kavod, il le donnera plus facilement à sa mère. Alors, le fils est galou, le fanav, chez Aben, Mechabed, et Imo, Yoter, Me'aviv. Il plaît chez Meshtad, Lato, Bedvari. Parce que sa mère, elle lui parle plus, elle l'aide plus. Donc la Torah, elle a dit à chaque fois, en premier, celui pour lequel c'est le plus difficile. C'est-à-dire, tu dois donner du kavod à ton père et à ta mère. D'abord il est dit d'abord à ton père parce que naturellement tu en donnerais à ta mère plus facilement qu'à ton père. Et tu craindras ta mère et ton père parce que naturellement tu craindrais plus ton père que ta mère. Alors la Torah, elle te dit le contraire. Elle te dit, ne suis pas simplement ton penchant habituel. La Torah, elle te dit, c'est les deux. Donc, les deux, tu dois les craindre de la même manière et les donner du kavod de la même manière. Si vous voulez, on pourrait dire que ces mitzvot, c'est des mitzvot logiques, sauf que le grain de sel que la Torah a ajouté, c'est qu'attention, je sais très bien quels sont tes penchants, je te dis que je veux que ça soit exactement à la même hauteur. Et ça, c'est déjà difficile de le mettre à la même hauteur. tout, peut-être, je voudrais peut-être que dire le Sforno ici, le Sforno sur ce passage qui dit la chose suivante. Il dit, le verset vient dire ici, le Horot, Sheloi akavod bahem al ofan shielibo gaz bahem. Il faut faire attention que ce soit pas une trop grande familiarité au sens de qu'ils les prennent, qu'ils leur manquent un peu de kavod. Afal pi sheichabdem bemachal, parce que peut-être il va les honorer en leur donnant à manger, à boire, avec des vêtements, comme la Gemara le rapporte. Mais la Gemara dit justement, Yesh Machil Aviv, Vishyone Vetordo Minaola. On peut donner à son père à manger des délicatesses, et en fait, il lui rend la vie amère. Valiye Kvodo Lahem, Kemechabed, Noraim Etzlo, Lemalatam Alav. Il doit leur donner du kavod comme il donnerait du kavod à des gens qui lui en imposent, au roi ou à son maître, des gens qui lui en imposent d'une manière ou d'une autre. Il faut faire attention que ces notions de kavod et de ira ne soient pas génératrices d'un manque justement de kavod véritable. Et ensuite, le verset dit, Vetchaptotai tishmoru ani Hashem Elokechem. Rashi dit, pourquoi est-ce que le Shabbat est mentionné juste après? Parce que, pour te dire, que, Afalpi, chez Izir, Izarticha, Al-Moreav, bien que je t'ai dit de craindre ton père et ta mère, Nimiomar lecha, Chalel et ta Shabbat, si ton père, quand même, t'ordonne de faire quelque chose qui reviendrait à transgresser le Shabbat, al tishmalo. Ren bechar kol mitzvot. Il en va de même dans toutes les mitzvot. Ani Hashem Elokechem. Pourquoi? Parce que ata ve'avicha chayavim bikvodi. Toi et ton père, vous êtes obligés, vous avez une obligation de me donner du kavod à moi. Le fichach. L'otishmalo le batel et dvaray, et tu n'écouteras pas donc ton père s'il te dit de ne pas tenir compte de ce que moi je t'ai dit, Yachem. Explique les détails. Donc c'est ici important que on n'a pas un problème cornélien ou autre, d'un côté la Torah me dit et de l'autre côté mon père me dit je ne sais pas quoi faire, etc. C'est très clair et net, le passage qui te dit, étant donné que le père, il a exactement les mêmes obligations par rapport à Hachem que l'enfant, alors, ça ne peut pas aller contre les obligations par rapport à Hachem. Donc, ça n'existe pas. Le din de Kiboudav Vahem, même, ou de la crainte, etc., ne tient pas du tout, il n'existe pas quand il s'agit de transgresser une des mitzvot qu'Hachem a donné. Et on n'a pas de conflit entre les deux. L'une n'existe pas devant l'autre. Ça doit être absolument clair. Alors ensuite, dans le verset 18 de ce chapitre 19, allez-vous transporter là-bas. C'est ce pasouk. Lotikom velotitor et bnei amecha ve'aftal re'acha kamocha ani Hashem. Lotikom velotitor, c'est l'interdit de se venger. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ani Hashem. Rachid dit, si quelqu'un dit à l'autre, prête-moi ta scie, ou ta faucille, pardon. Il a dit non. Le lendemain, l'autre lui demande, prête-moi ta hache. Il dit non. Il dit, moi, je te prête pas. De la même manière que tu m'as pas prêté ce que je t'ai demandé. Ça s'appelle Nekima, ça c'est la vengeance. Et Netira, c'est marqué l'otitikom, l'otitor, qu'est-ce que c'est l'otitor? Il lui a dit, prête-moi ta hache. Il n'a pas le droit de lui dire non, simplement. Et quand il lui a dit non, le machar, amarlo ashileni, magalcha, prête-moi ta faucille. Il n'a pas de lui dire, voilà, je te la prête, je suis pas comme toi. Toi, tu m'as pas prêté. Ça, ça s'appelle Netira. C'est-à-dire, quelque part, il garde une rancune dans son cœur, bien que, concrètement, il ne la mette pas en œuvre, en fait. Donc, c'est à la fois interdit de le mettre en œuvre et de ne pas le mettre en œuvre aussi. C'est déjà interdit de garder rancune. C'est-à-dire, ok, je te prête, mais je te rappelle que je suis mieux que toi, quoi. Quelque part, moi, toi, tu n'as pas voulu me prêter. Moi, je te prête bien que tu n'aies pas voulu me le prêter à moi. Et dans le même verset, Ve'ahavta le'recha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva, ze klal gadol b'Torah. Ceci est un principe général de la Torah, dans la Torah. Donc ici, c'est un peu kamocha, comme toi-même. Ça, c'est évidemment difficile à entendre, mais en fait, si on veut regarder le détail, c'est encore un peu plus difficile, si vous voulez, dans la mesure où dans Pirkei Avot, dans le deuxième chapitre, on a lu donc ce Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Yehi chvod chamercha chaviv alecha keshelcha. Que le kavod de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Et un peu plus bas, dans le même chapitre, Rabbi aussi Omer, Yehi mammon chamercha chaviv alecha keshelcha. Que l'argent de l'autre te soit aussi cher que le tien. Et il y a certains rabbanim qui sont étonnés. Et si quelqu'un n'est pas mafpid sur son kavod, ou bien pas, il donne pas beaucoup d'importance à son argent, est-ce qu'il peut traiter le kavod de l'autre et l'argent de l'autre de la même manière? Le kamocha, est-ce qu'il va dans les deux sens? On peut dire oui, toi tu es malpide sur ton kavod, tu veux avoir du kavod, ou tu recherches de l'argent, alors tu dois avoir le même intérêt quand c'est l'autre. Parce que c'est une chose. Mais est-ce qu'il faut entendre kamocha dans les deux sens? Ceci, mis à part, c'est un peu compliqué d'entendre ça, parce que, a priori, on entend que la recherche du kavod, ou bien la recherche un peu frénétique de l'argent, c'est pas considéré comme des bonnes midot. Comment le Tana de Maseret Avot, il peut fonder l'obligation à l'égard de l'autre, les obligations qu'on a, l'autre sur quelque chose qui est une mauvaise mida finalement. Fonder les choses sur quelque chose qui est pas bon, c'est un peu compliqué à entendre. En vérité, le Tana, visiblement, il a utilisé le verset Ve'avtal Recha Kamocha. Il a pris le Kamocha qu'il y a dans le verset que nous venons de lire. Donc, du coup, la question, on peut la reposer sur le verset aussi. Pourquoi est-ce que la Torah, elle fait reposer l'amour du prochain sur l'amour de soi-même? Est-ce que l'amour de soi-même, se gâter, etc., est-ce que c'est une bonne mida pour qu'on puisse fonder sur cette mida l'amour du prochain. Le Rambam, il a déjà écrit que Tikkun HaGuf, c'est Churban HaNefesh. Si on accorde trop d'importance à soi-même, bon, sur certains plans, c'est destructeur. Et le Tana dans Pirkei Avot lui-même, le Tana, il dit très clairement que Pat Bamelach Tochal, Maim Msurat Ishte, Balarestishan, Krayet Sar Tirkie. On voit très bien que s'il s'agit de définir comment doit vivre le Talmid Racham, quelque part, c'est très clairement dit, avec à minima, donc mon kavod, mon... Et c'est difficile, même quand dans le dernier chapitre de Pirkei Avot, on parle là-bas de Kinyan Torah, comment on acquiert la Torah, c'est marqué clairement ici que elle s'acquiert, la Torah, elle s'acquiert pas dans l'abondance du kavod, etc. On dit c'est mioud dans achila, mioud dans shena, à minima dans la nourriture, dans le sommeil, etc. Et si quelqu'un, à la limite dans l'autre sens, si quelqu'un est un peu maso, est-ce qu'il doit traiter l'autre aussi à la mesure de son masochisme, d'accord. Donc c'est un vrai problème, savoir de quoi on parle quand on parle du kavod. En plus, marqué dans la halakha, dans le Rambam, c'est marqué me'od me'od eveshpal ruach. Il faut être extrêmement humble, extrêmement modeste. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils mettent l'accent sur être extrêmement modeste? C'est-à-dire, il y a un danger d'accorder de s'accorder trop de kavod, justement. S'il y a trop de kavod, c'est probablement, dit Razal, une espèce de reste de gava, d'orgueil. Et l'orgueil, c'est la plus mauvaise des midot. Alors bien sûr, la réponse est pas tellement difficile, c'est que il y a kavod et kavod. Le kavod extérieur, c'est une mauvaise, la recherche du kavod extérieur, c'est une mauvaise mida. Mais il doit y avoir quelque chose du kavod qu'on pourrait nommer plutôt la dignité. Il faut, on doit avoir présent à l'esprit que en tant qu'être humain, on est Betzelem Elokim. D'accord? C'est-à-dire que quelque part, on a une spécificité et on a un rôle à jouer en tant qu'individu. Donc, on doit se donner les moyens de jouer ce rôle. Donc, il faut se donner, j'ai l'habitude de traduire toute la notion de kavod avec le mot kavod qui veut dire lourd. Il faut se donner du poids. Et toute la notion de donner du poids, ben, je répète ça, je répète souvent, ben, peut-être vous l'avez déjà entendu, je vous le répète quand même, que dans toutes les halakhot de kavod réciproque, ou de kavod qu'on doit à ses parents, du kavod qu'on doit à ses maîtres, du kavod qu'on doit à Hachem, c'est toujours donner du poids à quelqu'un, enlever Hachem de la liste pour pouvoir que je puisse parler de quelqu'un. Donner du poids à quelqu'un pour qu'il puisse jouer son rôle, jouer le rôle qu'il a à jouer dans le monde, et ce rôle qu'il doit jouer, c'est un rôle que j'ai besoin qu'il joue. Ça veut dire je veux qu'il joue ce rôle parce que j'en ai besoin. Dans le fameux exemple de Kibbud Av Va'em, qui est la parasha de cette semaine, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut donner du kavod à ses parents? Bon, alors, on a vu que certains disent c'est une question de reconnaissance. C'est le poids à quelqu'un qui doit jouer un rôle, et pour qu'il puisse jouer son rôle, il a besoin de mon poids. C'est-à-dire, d'une certaine manière, un parent, il peut pas jouer son rôle si son enfant ne lui donne pas le poids qu'il faut pour qu'il le joue. Parce que, évidemment, le din de Kavod, c'est pas quelque chose qui est fait, il faut pas se tromper, hein. Kibouda Vahem, c'est pas une mitzvah pour les petits-enfants. Bon, les petits-enfants, ils sont pas tous des mitzvot. La mitzvah de Kibouda Vahem, c'est une mitzvah qu'on a, que le fils qui a 60 ans, il doit à son père qui en a 85. Bon, c'est pas obligatoirement, cette mitzvah, elle concerne a priori uniquement quelqu'un qui est majeur. Alors, comme toutes les mitzvot, on les enseigne à l'enfant à les pratiquer pour que, au moins dans la bar mitzvah, il ne tombe pas 613 mitzvot sur la tête. Mais bon, on l'entraîne, c'est tout. C'est un entraînement. On a besoin que, j'ai besoin que mes parents jouent leur rôle de parents. Alors, quand on n'a pas, on n'a pas de parents, les nouveaux, etc. D'ailleurs, on voit très bien que la preuve, si vous voulez, que on a besoin que les parents jouent un rôle, c'est que si quelqu'un, l'Oelainu, il perd un parent, là, normalement, le deuil, c'est seulement 30 jours. Pour n'importe qui, 30 jours. Pour un parent, c'est une année. Pourquoi c'est une année? Parce que à partir de 30 jours, c'est le deuil, il est une partie de la mitzvah de Kibouda Vahem. Parce que j'ai aussi besoin de donner du poids à l'image post-mortem de mes parents. J'ai aussi besoin de cette image. Et donc, il faut que je donne du poids pour qu'ils en aient, si vous voulez. Un parent, il peut pas imposer d'avoir du poids contre son enfant, parce que ça ne durait qu'un certain temps. Et le moment où l'enfant, il sera plus fort que le père, si ça a été fait par la force, que ça soit économiquement, physiquement ou autre, c'est fini. Donc, le rapport serait abîmé. De la même manière, par rapport à son maître, le maître, il peut pas s'imposer comme maître à son élève. C'est l'élève qui doit comprendre que c'est son intérêt de donner du poids à son maître pour que le maître puisse jouer son rôle de maître. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, donnez-moi du poids, en quelque sorte. Vous voulez que je vous donne des mitzvot? Alors faites de moi, reconnaissez-moi comme roi. D'abord, Hachem demande la malchut. Reconnaissez-moi comme roi, alors je pourrais vous donner des mitzvot, mais autrement, je ne peux pas vous donner des mitzvot, à quel qui je vous donne des mitzvot.
Mais,
donc c'est ça la règle. Excusez-moi. Et dans un couple, encore un instant, dans un couple, c'est la même chose. D'accord? Un homme ne peut pas jouer son rôle de mari si la femme ne lui donne pas le poids nécessaire pour le jouer et réciproquement.
Non.
Si on essaie de s'imposer, ça ne marche pas. Voilà, vous pouvez dire un mot.
Oui, merci. À chaque fois que vous utilisez, que ce soit pour le couple ou pour le père, les parents, vous utilisez le terme « jouer un rôle ». Et il faut leur laisser jouer leur rôle. Et ce terme-là est à double tranchant, c'est-à-dire qu'en fait, on joue quelque part pour qu'ils prennent leur place, mais est-ce que ça serait pas plutôt leur place elle ne peut pas s'imposer, ça c'est clair, mais est-ce que justement ils ne doivent pas être à leur place et savoir occuper leur place? Et là,
ils ne peuvent pas le faire si je ne le laisse pas. Non, si je ne leur donne pas,
l'empêcher,
si je ne leur donne pas la possibilité, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas être un parent contre la volonté des enfants. Vous jouez pas votre rôle contre la volonté des enfants. L'enfant, le rôle du parent, c'est d'apporter quelque chose qu'il peut donner comme parent et à son enfant qui en a besoin, comme Yosef, il avait besoin de l'image de Yaakov, etc. C'est fondamental, mais d'accord, vous pouvez pas le jouer tout seul.
Mais justement, bien
sûr que si les parents si les parents sont pas à la hauteur, vous pouvez essayer de lui donner du poids, ça va pas marcher. Ça, c'est clair. Mais c'est la mitzvah, on peut pas vous demander de faire que ça marche. Le père, il a des obligations, les parents ont des obligations à l'égard des enfants, mais pour jouer leur rôle complètement, il faut que les enfants permettre, en fait. Et on voit des exemples, ouvrez les yeux, vous verrez bien. Vous verrez bien que
c'est oui, comme ça. Oui, mais quelque part, c'est comme un maître.
Quand, quand les parents ne peuvent pas jouer leur rôle, alors il faut prendre des mesures pour que, pour pas empiéter, pour pas les dénigrer quand même. Mal rapporte un cas où d'un Moraïm, sa mère elle est devenue folle, elle voulait absolument se marier avec lui. Il n'a pas eu d'autre possibilité que de lui quitter la ville, parce qu'il ne pouvait pas la rabrouer à chaque fois qu'elle lui proposait, etc. Donc il a quitté la ville, il était obligé. Pourtant, elle était malade, il aurait pu dire oh, non. Une mère, c'est une mère, et il y a eu un moment où elle n'était pas malade, et il faut conserver cette image-là, de ce qu'elle peut lui donner sous forme d'image du moment où elle n'était pas malade. Bon, c'est ça, donc il y a deux kavod, il y a le kavod, disons, extérieur, si vous voulez, et puis il y a le kavod qui vient de ce qu'on est conscient, justement, de ce que on est Tselem Elohim, on est à l'image de la Kadosh Baruch Hu, et qu'on a justement une place dans le monde, et le kavod que je dois donner à l'autre, d'accord, et même l'amour que je dois lui porter, c'est-à-dire de cet amour au sens de je dois veiller à ce qu'il, justement, à ce qu'il puisse prendre toute sa place, et ça vient du fait que finalement, lui aussi, il est Tselem Elohim. Et il a un rôle à jouer, comme moi j'ai un rôle à jouer dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans certaines situations. On a un but à atteindre, on a un rôle à jouer dans le monde. Et lui, il a un rôle qui n'est pas moindre que le mien. Et donc, il faut que je comprenne bien cela. Kamocha, c'est-à-dire de la même manière que toi, tu dois comprendre que tu dois veiller à une certaine forme de kavod, c'est-à-dire un certain poids que tu dois avoir, parce que si tu te dénigres complètement, ou si tu laisses les gens te dénigrer complètement, tu pourras pas jouer le rôle que tu dois jouer. Donc, quelque part, il faut essayer, pour soi aussi, de se conserver un certain kavod, si vous voulez, celui qui est nécessaire pour jouer, encore une fois, même si vous n'aimez pas visiblement ce sens, mais le rôle qu'on a à jouer, parce que c'est normal que voilà, on est dans le monde et on a un rôle à jouer par rapport le clal par rapport aux nations, les individus les uns par rapport aux autres. Chacun a un rôle et un rôle bien précis. On a vu par exemple ici que par exemple les Lévim, ils étaient partagés en deux. Il y avait les Lévim qui étaient en charge de chanter et les Lévim qui étaient en charge d'ouvrir et de fermer les portes du Beth Amikdash, et on était chayav mita si l'un allait faire le travail de l'autre. C'est-à-dire le concierge qui va chanter, il est chayav mita. Ça veut dire en fait il a complètement raté sa vie, et de même manière, le chanteur qui va aller fermer les portes, ouvrir les portes, il va même aider quelqu'un par exemple. Il y a un vieillard qui veut fermer les portes, lui donner un coup de main, non mais t'as pas le droit. Si toi tu fais partie des chanteurs, tu peux pas l'aider à fermer les portes. Tu dois savoir exactement quel est ton rôle. Ah, et pourtant, je pourrais lui rendre service et tout. Non. Il y a des endroits où ton rôle, c'est de faire ça et tu peux pas bouger de ça. Tu peux, comme je beaucoup, tu as requis pour faire ce travail-là. Donc, je suis requis pour faire ce travail-là. Je ne suis disponible pour rien d'autre. Je suis requis par HM pour faire ce que j'ai à faire. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut une certaine colonne vertébrale, si vous voulez. Si quelqu'un est devenu un mollusque, Yaakov Avinu, vous savez, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kotonti mikol ha-chassadim, je suis un peu écrasé par tout le chesed que tu m'envoies. C'est-à-dire, tu me donnes tellement de bonté que je suis un peu écrasé par ces bontés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La Gemara, elle dit que l'orgueil, c'est la plus mauvaise des midot. Mais on doit néanmoins avoir un huitième de huitième d'orgueil. Vous vous souvenez probablement. C'est pas que la Gemara ne savait pas faire la multiplication. Elle n'a pas dit un 64e. Elle a dit un huitième de huitième. Et le Gaon de Vilna dit, qu'est-ce que c'est un huitième de huitième? C'est le huitième pasouk de la huitième paracha. Et le huitième verset de la huitième paracha, c'est le pasouk que je viens de vous citer. C'est quand Yaakov nous dit « Koton timikola hasadim ». Ça veut dire ce degré d'orgueil, il faut l'avoir. Parce que si on est un mollusque, on peut même pas se tenir debout devant Hachem. On est requis de se tenir debout devant Hachem. Hachem nous a dit, tu tiendras devant moi, toujours le fanecha, devant Hachem, pour la prière, pour toutes sortes de situations, tu dois être debout devant moi. Et donc, il faut que tu sois capable de te tenir debout, à tous les sens du terme. Debout, ça ne veut pas seulement dire vertical. Et donc, on ne peut pas se laisser complètement réduire. Et Yaakov Avinu dit à Hachem un petit peu, ne m'en donne pas plus. Parce que ça va, déjà comme ça, j'ai du mal à me tenir debout. Tellement tu me donnes tu m'assènes littéralement pour tes bontés, c'est tellement fort, tellement lourd que j'y arrive pas. J'existe plus. Donc, il faut quand même que je puisse un petit peu exister. C'est un minimum d'orgueil. Ça, cet orgueil-là, il est nécessaire. De même que l'orgueil, c'est très mauvais. Le kavod aussi, la recherche du kavod est mauvaise quand il s'agit du mauvais kavod. Un kavod qui est extérieur, celui-là, il n'amène rien du tout. Le seul kavod qui vaut, mais qui lui doit être recherché, et c'est pour ça que sur ce kavod-là, on peut fonder le kavod qu'on doit donner à l'autre. D'accord? Et donc, l'amour de soi, qui est une forme de kavod aussi, d'accord, c'est l'amour de soi, c'est-à-dire le kavod qu'on veut se donner, c'est là-dessus qu'on peut fonder le kavod qu'on donnait à l'autre, parce que on te demande pas de c'est pas autre chose, c'est simplement à quel titre tu peux te donner à toi-même du kavod ou de l'amour, si on veut, c'est au titre de ce que tu es, c'est les Melokim, c'est que tu as été mis par Hachem dans le monde pour y faire quelque chose, pour être une partie du clan d'Israël qui a des choses à faire, etc., comme on a vu dans le Meshech Chochma, l'échelle collective aussi. Et puis, bon, il faut que tu joues ton rôle, que tu occupes toute la place que tu dois occuper. Eh bien, si tu le fais, effectivement, tu vas comprendre que l'autre aussi, il doit occuper toute sa place. Et c'est à toi à veiller qu'il puisse l'occuper, cette place. Alors c'est intéressant, on peut dire mais qu'il s'en occupe tout seul. D'accord, ça fait il a une obligation de s'occuper, d'occuper. Bon, alors c'est la co-responsabilité qu'on a tous les uns envers les autres dans le cas d'Israël. Je suis responsable que lui, justement, fasse ce qu'il a à faire, parce que si lui il le fait pas, personne le fera. Il y a toujours cette chose, faire la totalité de ce qu'il a à faire, personne ne pourra le faire. Si jamais lui, il est défaillant, alors les autres vont devoir se répartir. Chacun va prendre une partie de ce que lui n'aura pas fait pour que la chose soit faite, puisque ça doit être fait. C'est la volonté d'Hachem. Pour que les choses soient faites, personne va le remplacer complètement, mais on va partager le travail qu'il faisait. Exactement un peu dans la même optique que lorsque Rav est décédé, les élèves se sont partagés les qualités de Rav. Chacun, Rav travaillait sur certaines parties de sa personnalité, il travaillait dans tel et tel domaine. Et chaque élève a pris une partie du travail que le maître était capable de faire. Il y a un des Rashi Yeshivot de Ponivesh, de l'ancienne génération, c'est quelqu'un qui... tous les matins, il arrivait à 2h du matin, il arrivait à la yeshiva, commençait sa journée à 2h du matin. Et il était à la yeshiva, je crois, à 10h du soir. Et quand il est niftar, il a deux de ses fils, personne ne pouvait faire ce que lui, il était capable de faire. Mais il y en a un qui a pris de venir plus tôt le matin et l'autre de rester tard le soir, en fait. Et donc, ils ont essayé de se partager le travail que leur père arrivait à faire tout seul, ils ont pris, en plus de ce qu'eux faisaient déjà, ils se sont répartis les tâches pour que, de la même manière qu'on dit de façon un peu plus imagée, que quand un Mitracham ou un Salik s'en va, alors ou quand un Sefer Torah est brûlé, on dit que les lettres, elles s'envolent, et chacun peut prendre les lettres, doit prendre les lettres qu'il peut prendre. D'accord? C'est bien que, voilà, quand quelque chose ne peut pas être fait par une personne, ne peut plus être fait, pas être fait, eh bien, il faut que tout le monde prenne une partie. Ça, c'est la co-responsabilité qu'on a tous, et c'est cette responsabilité qui fait que qui est le ciment, en quelque sorte, du clan Israël. Le clan Israël, il tient parce qu'il est responsable devant Hachem de faire ce qu'Hachem veut que le peuple fasse dans sa totalité. La Torah, elle n'a pas été donnée aux individus. La Torah, elle a été donnée au clan Israël dans sa totalité. Et ensuite, ça redescend au niveau des individus. Chacun fait toutes les mitzvot, mais bien sûr, chacun a une mitzvah qui est plus particulièrement la sienne. Et pour savoir quelle est plus particulièrement ma mitzvah, je dois regarder celle que j'ai le plus envie de faire. Celle qui, une mitzvah qui, alors, et dans ce cas-là, Rav Volbe disait, sur cette mitzvah-là, il faut être, essayer d'être aussi parfait que possible. Si on veut être, on peut être mekil sur d'autres choses, mais sur cette mitzvah-là qui est vous-même, chacun d'entre nous, celle-là, il faut essayer de la faire de façon parfaite, et faire des chumrot ou faire être plus sévère, plus regardant sur cette mitzvah-là, parce qu'une certaine manière, c'est nous-mêmes, quoi. Il faut essayer de regarder ce qu'on a en particulier envie de faire. Voilà. On va s'arrêter là.
Donc,
c'est une, sur deux parties extrêmement riches. Bon courage.
Merci. Merci. Je connais. Bonsoir, Rav.